Vous écoutez, on lit pour vous.
Rétablir la confiance. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 17 mai 2026 dans La Presse. Le conspirationnisme n'est pas une mode passagère liée à la pandémie. Si la crise sanitaire est derrière nous, la crise de confiance au pays s'accroît. Avec elle, progressent des croyances complotistes et leurs différentes mutations réactionnaires. Voilà quelques-uns des constats préoccupants qui émergent d'un rapport de recherche rendu public en mai 2026 par la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. UNESCO-PREV. 4 ans après la pandémie, l'adhésion au conspirationnisme s'est consolidée au Canada. Près de 30 % des citoyens canadiens soupçonnent les gouvernements de cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Pas moins de 26 % croient que la thèse d'extrême droite du grand remplacement, selon laquelle les élites politiques, intellectuelles et médiatiques voudraient ici remplacer la population canadienne par une population immigrée, est probablement vrai, ou certainement vrai. Environ 22 % tendent à croire que la pandémie est un prétexte pour conditionner la population à la docilité et à la répression policière. L'adhésion à ces idées conspirationnistes est moindre au Québec, révèle aussi le rapport. Environ 22 % des Québécois adhèrent à la thèse conspirationniste sur les vaccins, 15,5 % à celle du grand remplacement et 15,3 % à l'idée que la pandémie était un prétexte pour mieux contrôler la population. On pourrait voir le verre de la confiance à moitié plein et se dire « quand on se compare, on se console ». Mais lorsque plus d'un Québécois sur 5 adhère à des idées conspirationnistes sur les vaccins, que la méfiance à l'égard des institutions s'accroît et que tout un écosystème réactionnaire prend du galon, l'heure n'est pas à la consolation, mais aux questions. On voit qu'il y a une concentration de l'adhésion au niveau des hommes de 18 à 54 ans, et plus spécifiquement des jeunes hommes, 18 à 34 ans. C'est en soi une raison suffisante pour se poser des questions, observe le politologue David Morin, co-titulaire de la chaire UNESCO-PREV 1. Le rapport montre aussi qu'il y a une augmentation de la méfiance à l'égard de la plupart des institutions au Québec, souligne le chercheur. Même si, dans l'ensemble, les niveaux de méfiance sont nettement plus bas qu'ailleurs au pays, c'est au Québec que la méfiance à l'égard du gouvernement provincial a le plus fortement augmenté, ce qui pourrait en partie s'expliquer par l'usure du pouvoir. On y note également une progression de la méfiance à l'égard des grandes entreprises, du gouvernement municipal, du gouvernement fédéral et des médias traditionnels. Là aussi, c'est l'occasion de s'interroger sur les raisons de cette progression. Il importe, par ailleurs, de noter que l'écosystème conspirationniste né durant la pandémie s'est grandement transformé en contexte post-pandémique. Sa composante principale n'est plus le conspirationnisme, mais plutôt la posture anti-institution et anti-élite, explique David Morin. 4 ans après la pandémie, dit-il, on a un écosystème de droite réactionnaire qui s'est consolidé et au sein duquel un certain nombre de personnes continuent d'adhérer à une certaine vision complotiste. Mais ce n'est pas la matrice idéologique la plus partagée. La posture anti-institutionnelle qui domine désormais se décline autour de différents thèmes, souligne le professeur de l'Université de Sherbrooke. C'est une posture que l'on rattache à toutes sortes de sujets, les scientifiques et le climat, le gouvernement et l'immigration, le communautaire et les trans, etc. En ce sens, au-delà de la montée de la pensée conspirationniste, ce qui apparaît tout aussi inquiétant, c'est la tendance à la normalisation des différentes mutations de cette pensée qui percole dans la société. Ce que nous dit par-dessus tout ce rapport, c'est que le nerf de la guerre, c'est la confiance. C'est le facteur qui domine tous les autres, si on veut comprendre pourquoi le conspirationnisme gagne du terrain. Il y a évidemment d'autres variables, comme la langue, la religion, la santé psychologique, le sentiment de marginalité, l'idéologie politique, etc. Mais cela reste des facteurs marginaux. Bref, on a un sacré problème dans un contexte où la confiance dans les institutions politiques, gouvernementales, médiatiques ou scientifiques a baissé de façon notable depuis la pandémie. Le fait que le gouvernement a refusé de faire un véritable bilan public après la crise de la COVID-19 et d'expliquer en toute transparence ses ratés et ses succès a contribué à accroître cette méfiance. Le défi, ce n'est pas juste que des gens tendent de plus en plus à croire des choses qui sont fausses. C'est aussi qu'ils ne vont plus croire des choses qui sont vraies, souligne David Morin. Que faire? Rétablir, oui, bien sûr. Mais il faut surtout rétablir la confiance. Si on croit que des gens qui adhèrent aux théories du complot vont être convaincus parce qu'on leur amène des faits, on se trompe. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on renforce la confiance qu'ils ont dans les gens qui énoncent ces faits. Vaste et urgent programme. Comment définir le conspirationnisme? La chaire UNESCO, PREV, définit le conspirationnisme comme une certaine vision du monde voulant que la plupart des événements actuels et historiques résulte de l'action secrète d'un groupe de personnes ayant des intentions malveillantes. C'était « Rétablir la confiance », un texte de Rima El-Khoury, paru le 17 mai 2026 dans La Presse.
Prévenir l'expulsion ne suffit pas, car loger n'est pas habiter. Un texte de Mélanie Fournier, paru le 11 mai 2026 dans Le Devoir. Pour les plus vulnérables, le logement peut devenir un lieu de retrait, de solitude ou de réactivation traumatique. Le 7 mai dernier, le gouvernement du Québec annonçait un investissement de 28 millions de dollars pour contrer l'itinérance à Montréal, dans la capitale nationale et en Outaouais. Lors de cette annonce, La ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin-Roy, a résumé l'esprit de la démarche par une formule. Le premier rempart contre l'itinérance, c'est d'avoir un logement. L'annonce du gouvernement a le mérite de reconnaître l'urgence, mais elle reconduit une logique bien connue des politiques publiques. On finance d'abord les murs, puis on ajoute un peu d'accompagnement autour. Or, dans plusieurs trajectoires d'itinérance, notamment féminines, ce n'est pas seulement le loyer qui cède, c'est le lien au lieu. Les données de terrain vont d'ailleurs dans le même sens. Les évaluations du modèle « logement d'abord » montrent que la stabilité résidentielle s'améliore nettement chez les femmes, mais que les retombées sur la qualité de vie, l'insertion sociale et les symptômes psychiques demeurent plus modestes et inconstantes. Au Québec, le rapport « Vers un chez-soi de la rue des femmes » montre qu'entre 2015 et 2022, le programme SRA a permis 26 placements en logement. Au terme de plus de 7 années d'implantation, seules 7 femmes étaient encore en logement, malgré un accompagnement soutenu. Pour les plus vulnérables, le logement pouvait devenir un lieu de retrait, de solitude ou de réactivation traumatique. C'est à la lumière de cet écart entre stabilité résidentielle et habitabilité qu'il faut lire la répartition des sommes annoncées. Le cœur de cette annonce prévoit 21 millions de dollars sur 3 ans pour financer un projet pilote de 1000 logements. L'objectif est d'intervenir en amont. Lorsqu'un ménage risque l'expulsion, son appartement actuel est converti en logement subventionné, ce qui plafonne le loyer à 25 % de ses revenus. La réponse économique est vitale. Toutefois, les chiffres révèlent une hiérarchie institutionnelle persistante. Sur les 21 millions consacrés au volet de prévention à l'expulsion, à peine 3 millions sont réservés au soutien et à l'accompagnement. Cela signifie que l'État continue de financer massivement le maintien dans les murs, mais beaucoup moins ce qui permet d'y tenir. C'est ici que la politique publique doit être remise en question. Reste à savoir si ces 3 millions permettront de financer un accompagnement suffisamment intensif et durable, assuré par des personnes formées aux réalités traumatiques du retour en logement. Cette présence ne se réduit pas à un suivi administratif. Elle suppose des visites, une continuité, une capacité à repérer les signes de retrait, de peur ou de désorganisation avant que le logement ne soit à nouveau perdu. Une politique qui subventionne le loyer sans financer suffisamment cette présence humaine risque de stabiliser des personnes dans des lieux qu'elles ne parviennent pas à habiter. L'angle mort du dispositif se révèle d'autant plus vivement que la mesure vise à maintenir les personnes dans leur logement actuel. Sur le plan administratif, l'idée de ne pas déraciner davantage des locataires fragilisés est pleine de bon sens. Mais sur le plan clinique et humain, la réalité est souvent plus complexe. Que se passe-t-il si ce logement est justement celui où la personne s'est isolée, a subi des violences, vit dans la peur d'un ex-conjoint ou ne parvient tout simplement plus à dormir? L'itinérance, en particulier celle des femmes, se loge souvent dans des formes de précarité peu visibles. Rester chez un proche, accepter une cohabitation contrainte, prolonger une relation dangereuse pour préserver une chambre. Autant de situations où l'on échappe à la rue visible sans être véritablement en sécurité. Pour plusieurs d'entre elles, le domicile n'a jamais été ce sanctuaire obstinément célébré par nos imaginaires politiques et familiaux. Il a plutôt été un lieu d'emprise, de menace ou d'enfermement. Dans ce contexte, maintenir quelqu'un chez soi ne peut jamais être pensé comme une mesure neutre. La question est aussi de savoir quel chez soi on maintient. Ramener le loyer à 25 % du revenu évite une expulsion. Mais empêcher quelqu'un de perdre son logement ne suffit pas si l'on ne demande pas ce qui lui permet d'y rester autrement qu'en état d'alerte ou de survie. Le second volet du plan laisse pourtant entrevoir une intuition plus juste. en allouant 7 millions de dollars pour bonifier le programme PRISM-D, ce volet prévoit un temps de transition en hébergement de 8 à 12 semaines avant l'intégration définitive en logement. Cette mesure reconnaît implicitement qu'une entrée directe en appartement n'est pas toujours soutenable. Mais pourquoi réserver cette logique de transition aux seules situations associées à la santé mentale et aux dépendances? L'entrée en logement peut aussi constituer une épreuve majeure pour une personne qui fuit la violence après des années où le domicile a moins protégé qu'inquiété. L'ambition de la première ministre Christine Fréchette d'intervenir plus tôt et autrement est la bonne. Encore faut-il la pousser jusqu'au bout. Le but n'est pas seulement de fournir une adresse subventionnée pour empêcher la bascule visible dans la rue. Il s'agit de créer les conditions concrètes d'un accompagnement capable de rendre le lieu véritablement appropriable. Le logement est un premier rempart, certes, mais il ne devient protecteur que s'il est habitable, c'est-à-dire s'il ne laisse pas une personne seule face à ce que les murs réveillent. C'était « Prévenir l'expulsion ne suffit pas, car loger n'est pas habité ». Un texte de Mélanie Fournier, paru le 11 mai 2026 dans Le Devoir.
Mémoire, mémoire et effet de mémoire. Un texte de Alain McKenna, paru le 13 mai 2026 dans la presse. Bruno Arcan, un lecteur, demande « On dit qu'il est préférable de recharger la batterie de son mobile à 80% pour en prolonger la vie. Sauf que, si je charge à 100%, je peux la recharger tous les deux jours, soit pratiquement deux fois moins souvent. Qu'est-il préférable de faire? » La théorie des 80% repose sur une base scientifique réelle. Certains types de piles ont des caprices, dont l'effet de mémoire, qui réduit leur capacité quand on les recharge trop souvent avant leur pleine décharge. C'est moins un problème avec les piles au lithium que celles au nickel-cadmium, ou nickel, métal, hydrure, mais quand même. La technologie doit rester à votre service et non l'inverse. Comme le nombre de cycles de recharge complet dicte l'usure de votre pile, si vous branchez votre appareil deux fois moins souvent, vous étirez sa durée de vie. Votre méthode actuelle est donc bonne, elle aussi. Mais les téléphones modernes possèdent des logiciels de gestion qui ralentissent la vitesse de recharge vers la fin du cycle pour protéger les cellules de leur batterie. Si vous limitez votre charge volontairement, vous sacrifiez une portion de votre autonomie immédiate pour empêcher une hypothétique dégradation dans 5 ans. Remplissez votre appareil au maximum de sa capacité et profitez d'une longue autonomie. Une pile reste une pièce d'usure. Dans le pire des cas, son remplacement ne coûte qu'une fraction du prix d'un téléphone neuf. Monique Michaud, une lectrice, demande « Firefox bloque mes sites bancaires, alors j'y vais avec Chrome. Que faire pour y retourner avec Firefox? » Ce blocage prouve la rigueur de votre navigateur. Firefox déploie une tonne de mesures contre les pisteurs du web. Cet excès de zèle peut ne pas convenir à la mécanique de sites légitimes, comme celui de votre institution financière. Les banques utilisent des outils de validation que Firefox pourrait percevoir comme une menace. L'explication se trouve peut-être en un clic. Lancez Firefox et visitez la page qui pose problème. Cliquez sur le petit bouclier situé à la gauche de l'adresse Web. Le menu offrira l'option de désactiver la protection renforcée pour ce site spécifique, qui inclut parfois de brouiller votre adresse Internet, que le site peut utiliser pour s'assurer que vous êtes un utilisateur légitime. Si cette permission spéciale rétablit l'accès, vous saurez où se trouve le problème. Sinon, une extension de Firefox est peut-être en cause. Un bloqueur de publicité trop agressif paralyse parfois les formulaires bancaires. Désactivez vos modules additionnels pour cibler le coupable. Parfois, un vieux témoin de connexion peut empêcher de se connecter de nouveau. Allez dans vos réglages et effacez les témoins de connexion. Peut-être pourrez-vous retrouver l'accès perdu. Michel Plunus, un lecteur, demande « Ma mère a une tablette Samsung à la mémoire pleine, 99%. Elle n'a comme application que celle de base avec Android ainsi qu'un jeu. La tablette dit avoir d'autres contenus qui occupent 50% de son stockage et qui ne peut pas être supprimé. Comment corriger la situation? » La catégorie « Autre » sur les appareils mobiles est un trou noir numérique qui frustre des millions d'utilisateurs. Cette section englobe le système d'exploitation, les fichiers temporaires et les données cachées ou de nature inconnue que la tablette n'arrive pas à classer. Vérifiez d'abord les corbeilles. Ouvrez l'application Galerie, puis le dossier nommé « Mes fichiers ». Videz la corbeille dans les menus de ces deux endroits. Les éléments supprimés y restent souvent inactifs pendant un mois et saturent la mémoire interne. Les réglages d'entretien de l'appareil peuvent aussi vous aider. Dans ces réglages, choisissez le menu du stockage. Si une petite icône d'information apparaît à côté des applications, touchez cette icône. Le système peut demander l'autorisation d'analyser leur taille. Cette permission vous permettra d'éliminer du contenu non désiré. Si le problème persiste et si votre mère possède très peu de logiciels, une solution draconienne serait de réinitialiser complètement la tablette. Notez ses mots de passe et faites une copie de secours du contenu, puis rétablissez les paramètres d'usine à partir des réglages. La machine détruira tout contenu superflu et retrouvera sa fluidité d'origine. C'était « Mémoire, mémoire et effet de mémoire », un texte de Alain McKenna, paru le 13 mai 2026 dans la presse.
Le tunnelier Lisette entreprend l'excavation du tunnel de la ligne bleue du métro. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir. Le public a choisi de nommer le tunnelier en l'honneur de la première femme opératrice de métro, Lisette Saint-Onge. Baptisée Lisette en l'honneur de la première femme opératrice du métro de Montréal, le tunnelier de la ligne bleue commencera ses travaux d'excavation vers Anjou. Ce périple de 4,6 km entraînera le retrait de 300 000 mètres cubes de roc. Le tunnelier de 2000 tonnes creusera le tunnel de la ligne bleue à un rythme moyen de 10 à 15 mètres par jour et devrait terminer son parcours à Anjou au début de 2028. Respectant la tradition dans le domaine des projets d'infrastructure, un nom a été donné au tunnelier livré à l'automne dernier en provenance d'Allemagne. Le public a choisi de le nommer Lisette afin de souligner la contribution de Lisette Saint-Onge, devenue en 1981 la première femme à occuper les fonctions d'opératrice de métro. C'est incroyable. Jamais je n'aurais pensé vivre une chose semblable. Mais je suis très heureuse, a admis Madame Saint-Onge, 82 ans, présente au baptême du tunnelier mardi. L'événement protocolaire tenu mardi a permis de donner le coup d'envoi aux travaux d'excavation du tunnel de la ligne bleue en présence de plusieurs ministres, dont le ministre québécois des Transports, Benoît Charette, ainsi que le député fédéral d'Honoré Mercier, Éric Saint-Pierre, et de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. Garder ou pas le tunnelier? Le tunnelier entreprend sa mission, Mais qu'adviendra-t-il du mastodonte une fois son travail terminé? Théoriquement, il appartient au consortium Mobilité Bleu Horizon et doit être démantelé pour être réexpédié en Allemagne, mais la mairesse Martinez Ferrada souhaite qu'il soit utilisé pour d'autres projets de métro à Montréal. Il va falloir que tous les partis politiques s'engagent à garder le tunnelier, a-t-elle dit en évoquant la campagne électorale provinciale à venir. C'est de la bonne gouvernance, c'est de la bonne administration. Vous savez, Toronto projette chaque année des stations de métro. On peut faire la même chose. Soraya Martinez-Ferrada estime qu'il faudra regarder avec l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, les projets à prioriser. C'est sûr qu'il y a la boucle du métro de la ligne orange vers Bois-Franc, mais il y a aussi l'extension même du métro vers l'est auquel on pourrait penser. La mairesse insiste. En parallèle, il faut absolument aller de l'avant avec le projet structurant de l'Est, PSE, ce tramway qui devait être confié à Mobilité Infra-Québec, MIQ, en début d'année, mais qui n'a toujours pas été transféré à l'agence gouvernementale. Honnêtement, on ne peut pas attendre moins qu'un REM dans l'Est, a-t-elle dit. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne la grande opportunité que l'Est offre à tout gouvernement qui va être là. Vous savez, on a près de 30 à 40 millions de pieds carrés de terrain à développer dans les zones industrielles. Le ministre des Transports, Benoît Charrette, admet aussi qu'il faudra étudier l'idée de conserver le tunnelier à Montréal après le prolongement de la ligne bleue. Il y a certainement matière à réflexion. On est pleinement conscient des avantages d'avoir une infrastructure qui est déjà immobilisée comme celle-ci. C'est en discussion avec la STM actuellement pour voir ce qu'on doit prioriser, davantage de maintien d'actifs ou développer le réseau. M. Charrette est cependant demeuré vague au sujet du PSE. Si on regarde la grande région de Montréal, il y a des avancées importantes qui se sont faites ces dernières années, a-t-il indiqué en évoquant le prolongement du REM vers Deux-Montagnes et Anse-à-l'Orme, ainsi que le prolongement de la ligne bleue. Il y a d'autres beaux projets. Il faut les mettre en séquence pour pouvoir les planifier, les budgéter et les intégrer dans notre programmation pour le maintien d'actifs. Ce sont toutes les discussions qui ont cours actuellement et la ville demeure un partenaire de premier plan. C'était le tunnelier Lisette entreprend l'excavation du tunnel de la ligne bleue du métro. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 19 mai 2026 dans Le Devoir.